VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Dakar, 18h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. En RDC, l'opération de révision du fichier électoral progresse dans les provinces de l'Est du pays. Au Nord Kivu, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, se félicite du grand pourcentage d'électeurs inscrits en moins de 2 mois, malgré certaines critiques de la société civile et de partis politiques contre quelques-uns de ses propres agents. Mais la CENI n'en reconnaît pas moins les défis logistiques et sécuritaires auxquels elle doit faire face. De Goma, notre correspondant Charlie Kasereka.
La coordination provinciale des associations de la société civile dénonce ce qu'elle qualifie d'incivisme, les comportements de certains agents de la CENI et certains éléments de la police commis au centre d'enregistrement des électeurs. Thomas Daka Mouiti est le numéro 1 de cette structure ici au Nord Kivu.
Certains groupes armés s'adonnent à arracher les kits dans les centres. Il y a aussi ce virus de monnaie. Ce n'est pas la population qui a engagé ces agents. Donc s'ils ne sont pas payés, ils ne peuvent pas se rabattre sur la population.
À plus de 100 km à l'ouest de Goma, la population appelle la MONUSCO et le gouvernement congolais à s'investir encore plus pour acheminer les kits électoraux et assurer la sécurité des agents dans les coins reculés de la province. Tom Amouri est un notable dans les territoires de Walikale.
Aujourd'hui, une bonne partie de Walikale n'est pas encore servie en kit. Nous appelons la CENI de continuer ses pourparlers avec tous ses partenaires qui devaient intervenir de manière à ce que tous les territoires soient servis en kit électoraux.
Une forte délégation des 13 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies séjourne à Goma depuis ce mardi pour évaluer ensemble avec leurs partenaires la situation sécuritaire et surtout se renseigner plus sur le bon déroulement de cette opération de la révision du fichier électoral. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
RDC toujours, plusieurs morts, tel est le bilan d'un naufrage sur le lac Tanganyika dans l'est du pays. Sur les quelques 50 passagers à bord de l'embarcation qui a fait naufrage, il y a maintenant 43 rescapés, selon les informations recueillies par VOA Afrique. On passe à l'Afrique de l'Ouest, au Mali, enlèvement d'une religieuse colombienne dans la nuit de mardi à mercredi à la congrégation des sœurs franciscaines de l'Immaculée Conception de Carangasso, près de Koutiala, dans le sud du pays. Pas de revendication pour le moment concernant ce premier rapt dans la région de Sikasso. Plus de détails avec Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
À la congrégation sœurs franciscaines de Carangasso, dans le cercle de Koutiala, les débuts de nuit sont très calmes. Mais ce mardi 7 février 2017, tel n'a pas été le cas. La grande quiétude a été perturbée par des invités inattendus qui ont fait irruption à la congrégation. Ces assaillants ont apporté des matériels informatiques, un véhicule de la communauté, ils finiront par abandonner au niveau de la voie bitumée. Du coup, ils sont partis avec l'otage sur des motos. L'otage en question n'est autre que la sœur Gloria Agoti. Elle travaillait pour la congrégation des sœurs franciscaines de Carangasso depuis une dizaine d'années. La religieuse colombienne a été enlevée par des hommes armés non identifiés qui ont pris une destination inconnue. Aussitôt, l'armée malienne a été déployée à Carangasso et environnant. Ils ont procédé à des ratissages dans la zone qui est située à 320 km à l'est de Bamako. Carangasso, pour ne pas dire le cercle de Koutiala, fait frontière avec le Burkina Faso. En tout cas, il n'y a aucune revendication suite à cet enlèvement, qui d'ailleurs est la première dans la région de Sikasso. Même si des djihadistes avaient attaqué la localité de Misseni et Fakola en mars 2015 vers la frontière ivoirienne. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le calme est maintenant revenu à Adiaké, à 90 km à l'est d'Abidjan, où des militaires des forces spéciales sont descendus dans la rue mardi pour manifester en tirant des coups de feu en l'air. Christophe Kouamé, président de Civici, citoyens et participation, fait des propositions concrètes pour le retour de la sérénité dans l'armée ivoirienne.
Il y a une gestion tout à fait opaque d'une situation nationale. Alors la question qu'on se pose en tant qu'observateur, est-ce que réellement les forces armées de Côte d'Ivoire sont une armée qu'on voudrait républicaine, auquel cas il faut faire appel aux institutions républicaines pour gérer la crise? Ou alors, si c'est des factions d'armées qui sont dans un camp, alors on accepte l'opacité. Mais il n'est pas tard. La mutinerie à Diaké nous rappelle à nos bons soins, à l'exécutif ivoirien, au président Alassane Ouattara, qu'il devrait gérer cette situation de manière plus transparente, en incluant le Parlement, en incluant l'opposition dans son entièreté et en recherchant l'unité nationale devant un problème aussi grave qui touche notre nation.
Christophe Kwame à Abidjan, Côte d'Ivoire. Gambie, le nouveau ministre gambien de la Justice préconise une révision de la constitution en vigueur sous l'ex-président Yahya Jammeh pour en éliminer notamment les lois restrictives sur les médias. Aboubakar Tambadou est le 11e ministre nommé par le tout nouveau président gambien Adama Barrow, qui avait déjà désigné le 1er février 10 des 18 membres de son gouvernement. M. Tambadou a prêté serment hier. Il est un ancien procureur adjoint au tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Libye, le Parlement libyen basé dans l'est du pays a jugé nul et non avenu un accord sur la lutte contre l'immigration clandestine signé la semaine dernière par le gouvernement libyen d'Union nationale et l'Italie. Les détails avec Nathalie Barge.
Le Parlement installé à Tobrouk considère qu'il n'y a aucune obligation morale ou matérielle liée à cet accord, car le gouvernement d'Union et son chef, le Premier ministre Fayez al-Sarraj, n'ont aucun statut juridique dans l'État libyen. Ce Parlement ne reconnaît pas le gouvernement d'Union soutenu par l'ONU, mais appuie son rival basé dans l'Est libyen. M. Sarraj a signé à Rome le 2 février avec son homologue italien Paolo Gentiloni un mémorandum d'accord visant à renforcer la lutte contre l'immigration clandestine depuis la Libye. Des observateurs et personnalités politiques ont critiqué cet accord, affirmant qu'il prévoyait le refoulement des immigrés vers la Libye, ce que le gouvernement d'Union a toutefois démenti. Les Européens envisagent des mesures pour bloquer l'arrivée de milliers de migrants depuis la Libye, l'un des pays de passage obligés pour rejoindre l'Europe.
Le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne franchit ce mercredi une étape cruciale avec un vote des députés britanniques pour donner le feu vert à la première ministre Theresa May pour activer le processus du Brexit le mois prochain. Plus de précisions avec Tatiana Mosso.
L'adoption définitive du texte ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines. Mais Theresa May a répété qu'elle déclencherait avant le 31 mars l'article du traité de Lisbonne qui lancera 2 années de négociations de sortie de l'Union européenne. Le gouvernement a aussitôt prévenu qu'un rejet des termes du Brexit par les députés n'empêcherait en aucun cas la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Lors d'un vote purement symbolique à Édimbourg, mardi soir, le Parlement écossais, dominé par les indépendantistes du SNP, a lui voté à une majorité écrasante contre le projet de loi du gouvernement britannique autorisant Theresa May à lancer le processus du Brexit. Mais ce vote, acquis par 90 voix contre 34, est qualifié la veille comme l'un des plus significatifs dans l'histoire du Parlement écossais depuis la dévolution de 1998, restera sans effet. Autre réaction, celle du PDG de la compagnie irlandaise Ryanair, Michael O'Leary, qui s'est dit convaincu que d'ici 2 ans, les tenants du Brexit allaient changer d'avis. Selon lui, les partisans du Brexit leur ont menti en disant « on peut quitter le marché unique, rien ne va changer », alors que ça va sacrément changer, selon lui.
Et pour terminer ici aux États-Unis, une cour d'appel fédérale de San Francisco en Californie promet de dire dès que possible si un juge fédéral était justifié dans sa décision de suspendre le décret du président Donald Trump qui le mois dernier a interdit temporairement l'entrée aux États-Unis de citoyens de 7 pays à majorité musulmane. Compte rendu de Jean-Roger Bion.
Un avocat du département de la justice, Auguste Flangey, et Noah Purcell, celui des États de Washington et du Minnesota, qui ont porté plainte contre cette interdiction, ont présenté hier leurs arguments par téléphone aux 3 juges de la cour d'appel. Auguste Flangey a déclaré que le décret du président Trump était conforme au pouvoir que lui donnent le Congrès et la Constitution et qui lui permet d'établir les critères adéquats pour filtrer les voyageurs demandant des visas pour les États-Unis. M. Flangey a reconnu que les choses se sont déroulées trop rapidement pour donner au gouvernement assez de temps pour fournir toutes les preuves devant étayer le décret de M. Trump. Pour lui, l'ordre de suspension de ce décret par le juge de l'État de Washington était trop vaste et outrepassait le jugement du président. Pour sa part, l'avocat représentant les États de Washington et du Minnesota, Noah Purcell, a souligné que l'administration Trump veut réinstaurer son décret sans un examen judiciaire complet, ce qui replongerait le pays dans le chaos. À une question pointue sur l'allégation de discrimination contre les musulmans, alors que leur grande majorité n'était point affectée, Purcell a répondu qu'il n'était pas nécessaire pour prouver la discrimination religieuse que le décret ne nuise qu'aux musulmans ou à tous les musulmans. Quelle que soit la décision de la Cour d'appel de San Francisco cette semaine, les observateurs s'attendent à ce que l'affaire finisse devant la Cour suprême des États-Unis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.